L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes, conté par le professeur Ahmed Jabba.
L'âge d'or des sciences arabes, professeur Jabbar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors la semaine dernière, vous nous avez raconté les premiers pas des sciences arabes et l'importance qu'ont eu les traductions, le rôle qu'elles ont joué et assumé, surtout dans la diffusion du savoir, avec un personnage quand même hors du commun, qui est le fameux El Mamoun, qui a été un calife, qui a eu une vie assez mouvementée, mais qui a été un grand mécène pour les savants de l'époque. Et ce soir, deuxième grande partie de ce grand chapitre sur la naissance des sciences arabes, avec un élément essentiel dans la vulgarisation du savoir, comme on dirait aujourd'hui, c'est l'avènement du papier, avec cette précision que Gutenberg et l'imprimerie n'apparaîtront que dans quelques siècles, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors, ça a été le papier une véritable révolution, même une vraie démocratisation, mais on ne va pas laisser languir les auditeurs, et c'est vous qui nous comptez tout cela tout de suite, avec pratiquement la première question. Quelles ont été donc pratiquement les premières publications scientifiques en arabe, puisque les traductions avaient déjà fait, je dirais, tout leur travail, tout leur chemin, avaient tracé leur chemin ?
Du moins, la première vague de traduction.
Oui.
Puisque, comme on l'avait dit dans l'émission précédente, les premiers hommes de science de cette civilisation n'ont pas attendu que toutes les traductions soient achevées. D'abord parce qu'ils ne pouvaient pas le savoir, puisqu'ils traduisaient au fur et à mesure de la découverte des manuscrits. Et parfois, ils retraduisaient au fur et à mesure de la découverte de nouvelles copies d'un même ouvrage.
Bien. Oui, vous nous avez raconté la semaine dernière l'histoire de Hunayn al-Ishaq.
Ibn Ishaq, voilà.
C'est ça, qui n'était pas content d'une traduction qu'il a refaite 30 ans après.
Ah, il n'était pas content de lui, hein, de
lui-même. Oui, c'est bien ce qu'on disait, oui. C'est étonnant quand même.
Voilà. Hein. Et alors donc, en fait, dès la première vague de traduction, eh bien, on a commencé à publier des ouvrages en arabe par des auteurs qui ne traduisaient plus, mais qui écrivait des choses, évidemment, qui n'étaient pas originales au début, comme dans toute tradition scientifique. Eh bien, on copie les prédécesseurs.
Ce qu'on a, oui.
Voilà, on améliore la présentation, on essaye de résoudre des problèmes nouveaux avec les outils des anciens. Mais ça, c'est une forme d'appropriation très intéressante qu'il ne faut pas négliger. Donc, ce n'est pas du plagiat, voilà ce que je voulais dire. Et donc, ce n'est pas étonnant que ça ait commencé par la médecine, parce qu'on en avait besoin de manière urgente,
oui.
Surtout la médecine savante.
C'est d'abord pour les califes ou pour les populations, de
Alors,
plus à moins.
Au début, c'était pour les califes, les cours.
On s'en serait douté, oui.
Bien sûr, les cours, la cour impériale, puis les cours régionales, des gouverneurs, puis évidemment l'élite qui était autour du calife. Et puis de plus en plus, il y a eu une sorte de relative démocratisation quand même de la médecine savante, mais pour des gens aisés. Alors pour le bon peuple, pour les pauvres, etc., pour les paysans de la campagne, il restait toujours cette médecine populaire que j'ai déjà évoquée, qui n'avait pas la même efficacité.
Le fameux savoir-faire dont vous nous avez parlé.
Voilà,
oui.
Mais qui permettait quand même, au moins, de ne pas faire de mal aux gens et de les rassurer. Et vous savez, la psychothérapie est très importante en médecine aussi. Alors, pour revenir à votre question...
De publication,
mais on a commencé à publier des livres d'astrologie, parce qu'on en avait besoin. L'astrologie va être un instrument, à la fois pour prédire l'avenir et pour consolider les pouvoirs. Ça, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Et puis, on va publier des livres d'astronomie. Et là, on sait très bien qu'on a commencé, par exemple, après la traduction en arabe d'un ouvrage d'astronomie indien, après la traduction de l'ouvrage monumental d'Almagès de Ptolémée, eh bien, on va commencer à publier des commentaires.
C'est-à-dire qu'on porte des critiques, des annotations
Parfois, on redémontre autrement. Vraiment, c'est des commentaires. On commente, c'est-à-dire que le lecteur tout seul, laissé devant ces monuments de la science qui avait été produit par Euclide au IIIe siècle avant Jésus-Christ, par Apollonius, par Archimède, par Ptolémée, eh bien, il n'était pas d'accès facile. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, la science, d'une manière générale, savante, n'est pas d'accès facile. Et c'est la raison pour laquelle on forme les gens, on leur enseigne. Ce n'est pas comme le savoir-faire, auquel on peut accéder comme ça, spontanément, à n'importe quel niveau de savoir.
Là, c'est un autre niveau d'élite et de savoir et de connaissance.
Ah, il n'y a pas de problème, il y a des règles. Il faut une formation de base, ensuite une initiation, et même avec ça, dans telle ou telle matière, il faut à un moment donné une spécialisation. Tous ne vont pas être des astronomes, des mathématiciens, des philosophes. Ça, c'est un mythe qui a circulé pendant longtemps et qui a été un peu conforté par une vision des orientalistes, qui ont fait beaucoup de choses pour la connaissance de ce patrimoine, mais qui ont un peu influencé le regard. Et donc, on nous a habitués pendant longtemps à ces monuments de la science arabe et de la science des pays d'islam qui savaient tout, qui faisaient tout. Du style Avicenne, Ibn Sina, du style Ibn Rushd, du style Ar-Razi. En fait, au départ, et pendant des siècles,
on les a investis d'une mission en fait, qui n'était pas spécialement la leur.
Voilà, mais en fait, c'était des grands. Donc il y a, par exemple, Al-Fazari, on l'a évoqué la dernière fois, qui va traduire des textes indiens. Son fils va écrire des livres. Lui-même, d'ailleurs, a écrit des livres. Et en particulier, on va écrire des livres sur les instruments astronomiques. Pourquoi ? Parce que là, il y avait un besoin. Il y avait un besoin parce que les instruments, c'est comme des outils, c'est comme des appareils. À partir du moment où on a le mode d'emploi, on peut les utiliser. Mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui explique le principe et qui donne le mode d'emploi. Et ça, c'est du savoir savant quand même. Fazali, par exemple, c'est un bel exemple, à la fin du 8e siècle, qui va écrire un petit livre. Ali ibn Issa, aussi, un astronome, qui va écrire des livres pour utiliser l'astrolabe, qui est le fameux instrument qui va permettre de déterminer les heures, la direction de la Mecque, etc., etc. Et puis, il y a un démarrage d'activités dont on ne connaît pas les débuts, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas toujours beaucoup d'informations sur la période de maturation, comme la chimie, par exemple. Mmh. Alors la chimie, on va commencer à travailler dans des laboratoires, des petits laboratoires, et donc personne n'entend parler. Ce n'est que lorsque apparaissent de grands chimistes, comme Jaber ibn Hayyan, mais quand même à la fin du 8e siècle, très loin dans le temps, eh bien, à ce moment-là, il va s'imposer par sa stature, par sa production. Et donc, on dira le premier chimiste arabe ou des pays d'Islam, c'est Jaber ibn Hayyan. En réalité,
il y en a eu avant,
oui, mais nous n'avons pas d'informations. Oui. C'est la période, effectivement, de préparation, de maturation, de commentaires des ouvrages anciens, de chimie, grec, égyptien, comme on l'a dit, etc., babylonien. Et malheureusement, les historiens, les bibliographes racontent les faits de l'histoire des sciences à travers les grands hommes, ceux qui sont devenus célèbres.
Et ça, on oublie souvent
les petits, les moyens,
la périphérie.
On oublie les fantassins.
Ceux qui sont dans l'ombre.
Voilà, les fantassins de la science, l'armée des hommes de science. Mais en général, on les oublie parce qu'il faut bien tamiser et trier. Donc voilà un peu comment se fait le début de cette activité scientifique par des premières publications modestes.
De vulgarisation, pour reprendre un mot moderne. En fait, tout ce savoir aussi qui a pu être porté à la connaissance à la fois des élites, des savants et plus tard du bon peuple, comme vous avez bien dit, c'est grâce au papier. Donc le papier, d'où il venait, quel a été le rôle du papier dans la diffusion des traductions et des premières publications, puisque c'est ça qui a permis cette démocratisation par la suite.
Alors, au départ, il n'y avait pas le papier. Nous le savons, les premiers écrits, en particulier les traductions, puis les premières publications, hein, plus ou moins originales, ont été couchés sur soit du parchemin, soit du papyrus.
Les fameux 12 dont vous nous avez parlé la dernière fois.
Ça, c'est le papyrus parce que c'était égyptien.
Oui, oui.
Mais même à l'époque des musulmans, donc au 7e, 8e siècle, les matériaux qui étaient accessibles, et les techniques aussi, ce sont les techniques qui existaient dans l'Empire persan et l'Empire byzantin. Donc l'Empire byzantin utilisait essentiellement le papyrus, puis l'Empire byzantin et le Maghreb d'ailleurs utilisaient essentiellement le parchemin. Le Maghreb et l'Espagne. Le parchemin s'est fait en peau de bête, et puis le papyrus, c'est une plante spéciale qui est cultivée surtout sur les bords du Nil.
Oui.
Et donc on faisait des supports de l'écriture. Alors ces supports d'écriture étaient très chers. était très difficile à produire, à réaliser. Et donc, c'était vraiment une toute petite élite qui pouvait accéder au savoir, à la théologie, à la philosophie, etc., à travers
ces
manuscrits. Et donc, le papier ne va arriver que vers la fin du 8e siècle. Et là, il faut quand même rester quelques minutes sur le papier, parce que c'est très important, parce que vous savez, les sciences, la culture, les discours politiques ou idéologiques, c'est pas uniquement de la diffusion orale. Dans cet immense empire, il fallait que ça circule sur un support. Alors, le support du papier, quand il va arriver, c'était une sorte de révolution.
Oui, sans doute.
On s'en rend pas compte. Mm-hmm. C'était la première révolution, vraiment, qui va démocratiser le savoir en tant que tel.
Parce qu'il va pouvoir conquérir, lui aussi, de nouveaux territoires.
Absolument.
Alors, et tous les territoires, pratiquement.
Absolument, absolument. Et puis surtout parce que son prix de revient, tout bêtement.
Oui, oui, il est devenu accessible.
Accessible par rapport aux deux autres matériaux. Alors, que disent les Arabes? Les Arabes disent, nous avons découvert le papier après la bataille de Talas, qui a eu lieu en 751, sur la frontière chinoise, on est très très loin. Bataille d'ailleurs qui a été gagnée par les armées musulmanes. Ils auraient fait des prisonniers, et puis, il semble, parce que tout ça c'est au conditionnel, il semble que certains des prisonniers avaient le secret du papier. Ça c'est ce qu'on nous raconte. Et donc, ils ont dû un peu les pousser, hein, gentiment, à...
Je veux bien vous croire.
Voilà, à révéler leur secret. Et donc, d'après toujours cette histoire qui est un peu mythique aussi, un peu moins mythique que ce que j'ai raconté sur Al-Ma'moun, mais quand même, elle a un côté mythique, vous allez voir pourquoi. Et alors, la première fabrique de papier, eh bien, a été financée par le grand gouverneur de Harun al-Rachid, qui était à Samarcande, la capitale, donc, de la marche de l'Est, comme on dit. On aurait testé cette fabrique, cette première petite usine de papier, ça a marché. Et alors, on a convaincu le calife Harun al-Rachid, qui était à Bagdad, qui régnait entre 785 et 809, on l'a convaincu de construire la première fabrique de papier dans le centre de l'Empire, dans la capitale de l'Empire.
Et voilà. Là, c'est un tournant.
Et là, c'est un tournant. Alors, en fait, il faut corriger un peu ces choses-là, comme d'habitude. Il faut dire que, vraisemblablement, d'après les historiens maintenant, il semblerait que le papier, en tant que production du moins, même si on n'avait pas percé le secret, était connu bien avant l'islam, dans l'Asie centrale, en particulier dans la zone persophone, et donc en Perse. Et que lorsque l'islam va arriver, il va créer ces conditions de développement tous azimuts de toutes les énergies. Et donc, vous savez, dans ce contexte, comme toute autre civilisation, on va faire feu de tout bois. Mais il fallait quand même construire aussi une sorte de légende pour dire, pour attribuer à un grand calife, Harun al-Rachid, la paternité de la création d'une nouvelle industrie qui va en plus, surtout accompagner le savoir. Mais ce qui est important, et ça c'est un fait historique, c'est qu'il a réellement financé la création de la première grande usine à papier dans la capitale, Bagdad. Et après ça, il va y avoir des usines un peu partout.
Donc une politique de prestige, mais qui a porté ses fruits de manière très positive.
Absolument, parce qu'elle répondait à un besoin. Et donc très vite, le papyrus et le parchemin ne vont pas être abandonnés, mais vont être marginalisés. Parce que vous savez, on ne peut pas éliminer deux métiers qui étaient le travail de la peau, des peaux, et le travail du papyrus. C'est en termes vraiment de corporation, comme aujourd'hui. Donc, ça a commencé à être marginalisé, mais le papier de plus en plus s'imposait.
Est-ce que le papyrus et le parchemin ne sont pas restés alors l'apanage vraiment de l'élite, ceux qui étaient vraiment capables de lire des documents anciens ou de les reproduire ou de travailler avec, même si ça a été marginalisé?
En fait, ça va être réservé à deux choses. D'abord à l'élite qui surtout pouvait acheter ces matériaux et ces supports très chers.
Oui.
Et puis surtout, c'était réservé aussi à ce qu'on appelle les écrits nobles. Et l'écrit le plus noble, évidemment, c'était le Coran. Voilà. Et donc, nous avons jusqu'à maintenant des Corans qui sont écrits sur des peaux de gazelle.
Donc, ce qu'on peut dire, pour résumer, oui, c'est que le papier a largement aidé à la diffusion des traductions et des premières publications.
Oui, mais il faut ajouter quelque chose.
Oui.
C'est que il a réussi aussi à rendre la diffusion du savoir, non pas seulement géographiquement, mais localement, là où on enseignait, à rendre cette diffusion du savoir relativement plus démocratique. C'est-à-dire qu'un élève pouvait, à ce moment-là, tout en apprenant une leçon, pouvait mémoriser cette leçon sur un support qui était plus accessible financièrement. Alors que avant, on pouvait, à cause de la rareté des matériaux, on pouvait être obligé, par exemple, d'apprendre par cœur. Et donc déjà, on peut soupçonner que même les nouvelles pédagogies d'enseignement vont être facilitées, favorisées, encouragées par l'existence de ce papier. Et à ce moment-là, le papier va être un médiateur entre le professeur et l'élève, entre le savant et puis les étudiants chercheurs qui ne sont pas nécessairement avec lui. Et dans ce sens, donc, cela va être un élément d'échange. Et donc, cela va non seulement permettre la diffusion du savoir, mais va permettre l'accélération du savoir, la circulation du savoir. Par exemple, je vous donne quelque chose qui n'est pas une anecdote. C'est arrivé au Xe siècle, il y a deux savants, l'un qui s'appelle Al-Biruni, qui est mort en 1048, qui était à Kaf, en Asie centrale, l'autre qui s'appelle Abu'l-Wafa Bousjani, tous les deux sont d'origine persane d'ailleurs, mais l'un était en Asie centrale, l'autre était à Bagdad. Tous les deux écrivent en arabe, tous les deux sont de grands mathématiciens et astronomes, et puis un jour, ils décident tous les deux de faire un calcul difficile, un calcul très important, à la fois pour l'État et pour les géographes, c'est de déterminer la longitude des lieux. Parce que chaque point dans la carte, il faut avoir la latitude et la longitude. Et donc, ils ont décidé de le faire avec la technique de l'éclipse. Et donc, il fallait observer l'éclipse. Il y a eu une éclipse à leur époque, elle est datée d'ailleurs. Et il fallait observer l'éclipse à Bagdad, puis attendre que l'éclipse ait lieu à des milliers de kilomètres plus loin, et puis l'observer de nouveau. Et le temps mis entre l'éclipse de Bagdad et l'éclipse de la région où était Al-Biruni permettait de déterminer la longitude du lieu où était Al-Biruni. Connaissant la longitude de Bagdad.
Formidable.
Et ça, c'est vraiment mathématique et c'est astronomique. Eh bien, comment ils ont fait ça? Ils ont préparé l'expérience, ils ont préparé l'observation en s'écrivant. Et il y a eu une correspondance scientifique. À travers quoi? À travers le papier. Mais quel papier? Ce n'est pas le papier qu'on utilise pour l'emballage,
mais
vous vous doutez bien. Comme il y avait un service des postes en pays d'Islam.
Ça existait déjà?
Mais bien sûr, un service des postes très organisé, en particulier pour l'État et pour les élites quand même, pour les hommes de science. Et donc, quitte à payer un peu, et donc il y avait le système des chevaux, mais le système des pigeons voyageurs. Ce n'est pas une blague. Et les systèmes de pigeons voyageurs, c'était toute une industrie, près des petites entreprises qui élevaient les pigeons, qui leur apprenaient à se déplacer, etc. Et parallèlement à ça, il fallait produire un papier le plus léger possible pour que il puisse être transporté par le pigeon.
Par le pigeon, que ça ne le gêne pas. Alors, oui, pendant son voyage.
On pense que Al-Biruni et Abu'l-Wafa ont utilisé effectivement cette voie, ou la voie évidemment des chevaux. D'ailleurs, on pense que les amoureux ont utilisé ces courriers avec du papier très 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 fin. Nous connaissons le papier très fin qui était produit au Xe siècle, qui permettait aux amoureux de s'échanger des lettres. Et de garder le contact.
C'est très joli ça aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et puis il y avait évidemment le courrier militaire, secret.
Bon, sans doute.
Il y avait le courrier des commerçants, des marchands. Des grands marchands, parce qu'il fallait qu'ils fassent circuler leurs informations économiques et commerciales, d'une manière secrète, avec des codes même. D'où d'ailleurs le développement des codes. Donc vous voyez, le papier, en fait, il avait plusieurs rôles. Et donc il va devenir central. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas uniquement une lubie d'un calife qui s'ennuyait. C'est qu'il a eu une idée, il l'a concrétisée, et en fait cette idée est arrivée au bon moment. Et donc le papier va être central. Alors certains même disent qu'au début, on l'a choisi parce que, pour des raisons strictement politiques, parce qu'on a constaté que le papyrus et le parchemin, quand il y avait des documents officiels, on pouvait les gratter, et donc on pouvait les falsifier. Par contre, la fragilité du papier lui donne une force, si j'ose dire.
Oui, en fait.
Si on le gratte, on le détruit. Et donc, du coup, on ne peut pas trop le falsifier.
Les sciences, parce qu'en fait, le papier, vous venez bien de l'expliquer, a permis donc au savoir de se démocratiser, de se vulgariser, etc. Alors, est-ce qu'il y avait des universités, des bibliothèques, des écoles, des médersas? Ça fonctionnait comment?
Alors, c'est le point qui a besoin de recherche, toujours de recherche, parce que...
Mais jusqu'à maintenant?
Jusqu'à maintenant, parce que nous n'avons pas toutes les informations. D'abord, nous ne savons pas en détail comment a commencé l'enseignement en arabe. Et donc, à partir de quelques éléments, je parle de l'enseignement scientifique, bien sûr, parce qu'on connaît l'enseignement du Coran, l'enseignement de la littérature, de la grammaire, etc., de l'arabe. Alors, on pense que, en fait, ce que l'on sait sur les autres enseignements est valable en ce qui concerne l'enseignement des sciences. jusqu'à un certain point. Alors, on sait qu'il y avait, en pays d'islam, un enseignement primaire qui était dans des endroits différents. Et cet enseignement se faisait, par des instituteurs, disons, dans des kutub, c'est-à-dire des petites écoles. Les chrétiens et les juifs avaient leurs écoles. Les chrétiens appelaient ça les skola. Hunayn ibn Ishaq en parle d'ailleurs. Ils apprenaient à la fois les rudiments de leur religion, plus évidemment
la langue arabe, parce que
la langue arabe, va être aussi l'expression de la religion chrétienne d'ailleurs. Et puis ils apprennent l'hébreu pour les juifs. Mais pour les musulmans, qui vont devenir majoritaires, il y a ces écoles privées dans chaque quartier, je pense financées par la population ou par, disons, un personnage riche ou quelques personnages du quartier. Et puis il y avait les mosquées. Alors les mosquées, il ne faut pas croire que dans tous les quartiers, il y avait d'immenses mosquées avec un minaret ou deux minarets. Ça, c'est une image d'Épinal qui est fausse. Et souvent, ce sont des locaux tout à fait modestes, on n'a même pas besoin de minarets d'ailleurs, et qui permettent de se rencontrer pour faire la prière. Et puis, il y a les mosquées cathédrales, comme on dit aujourd'hui. Les mosquées, on les appelle masjid jama'a, c'est-à-dire les mosquées de la Jumu'a, du vendredi. Oui. Là, ce sont de grandes mosquées.
De beaux édifices.
De beaux édifices. Alors là, il y en a quelques-uns dans une ville, quelques-uns. Oui. Mais dans chaque petit quartier, il y avait une mosquée. Et cette mosquée, elle servait pour les 5 prières de la journée.
Oui.
Et le reste du temps. Les gens ne pensent pas à des choses très simples. Et le reste du temps.
Donc elle servait en quelque sorte d'école. La médersa, comme on l'imagine.
Absolument. Elle servait donc d'école pour les enfants, le matin. Et puis, après une certaine prière, probablement dans certains régions, la deuxième prière du jour, eh bien, elle permettait aux professeurs à ce moment-là, ce n'est plus les instituteurs, de donner leurs cours. Alors là, c'était les prémices des cours universitaires. Et donc, les élèves, les étudiants, ce n'est plus des gamins, les étudiants qui ont déjà eu une formation, donc, viennent. Il n'y a pas, de cycle secondaire. D'ailleurs, aucune civilisation n'a eu de cycle secondaire avant l'avènement de l'enseignement occidental, vers le XVIIIe siècle. Sinon, on passait d'un cycle primaire long vers un cycle donc supérieur.
Et en fonction, il n'était pas découpé comme maintenant.
Non, pas du tout. C'est juste une question de découpage, vous avez raison. Et donc là, on se retrouvait, jeune homme, si on est très, très intelligent, très formé, etc. Ça dépend aussi évidemment de son origine sociale, il ne faut pas se leurrer. Hein,
qu'on le veuille ou pas, il y avait une hiérarchisation sociale et même des castes.
Donc on passe de l'enseignement de niveau primaire à l'enseignement de niveau supérieur dans les mosquées. Et ça va durer donc jusqu'au XIe siècle. Mais parallèlement aux mosquées, certains professeurs, à un moment donné, quand il y aura de grands professeurs, qui vont être des gens qui ont un statut, qui vont avoir aussi des moyens financiers, parce qu'ils sont reconnus pour leur production, pour leur valeur, ils vont avoir les moyens pour pouvoir construire leurs habitations de sorte que ça devient aussi des lieux d'enseignement. Parfois des lieux où ils peuvent observer le ciel, donc des mini-observatoires. Mmh. Et donc ce sont des initiatives individuelles, ce n'est pas l'État. Et il va y avoir donc des madrasas privées, ou des madrasas qui vont être financés par le système du waqf, du habous en Algérie. Oui, oui. C'est-à-dire que ce sont des biens de main morte. Ce sont un groupe de personnes, ou un individu très riche, qui, avant sa mort, laisse comme donation, il a le droit de laisser jusqu'au tiers de son héritage, pour des actions charitables. Et on a eu beaucoup d'exemples de gens, de femmes en particulier aussi, qui ont financé des institutions d'enseignement sur une partie de l'héritage de leurs parents, par exemple, quand ils en ont bénéficié, ou sur leur propre héritage, pour la science. C'est joli, ça. Ça, c'est pas un mythe, c'est pour la science.
Très bien, c'est joli, c'est pas un mythe, c'est pour la science, je veux bien. Est-ce que c'était ouvert aux filles, ne serait-ce que celles des familles aisées et des classes sociales privilégiées?
Alors,
c'est une grande question.
C'est une grande question. Ce que nous savons, c'est que nous avons beaucoup d'informations sur les femmes instruites, les femmes cultivées. Donc, elles l'ont été quelque part. Elles n'ont pas été dans le même lieu que les garçons, semble-t-il.
Sans doute.
Mais elles l'ont été quelque part. Donc, soit ce sont des femmes qui enseignent aux femmes, aux jeunes filles, soit à partir d'un certain moment, des hommes enseignent aux femmes. Donc, il y a des lieux, nous avons des informations, dans des grandes villes, où les femmes étaient dans un même espace que les hommes. Il y avait juste symboliquement
une sorte de rideau.
Mais ça discutait de philosophie, de science, d'astrologie, de théologie, etc. Absolument. Il y avait des femmes calligraphes, il y avait des femmes médecins, des femmes juristes, très grandes juristes. Et pour le moment, nous n'avons pas trouvé encore d'ouvrage scientifique signé par une femme. Voilà. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez? Nous cherchons encore. Nous pouvons trouver.
De toute façon, on aura une émission spécialement sur les femmes et les sciences arabes.
D'accord.
L'école se démocratise, etc. Le savoir fait son chemin. Ça pose aussi la question des bibliothèques et le rôle qu'elles ont eu à jouer. Alors, elles sont apparues quand, ces bibliothèques? Et je suppose qu'on va aussi parler de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, dont l'incendie reste encore une perte irréparable jusqu'à nos jours.
Pour l'humanité, oui. Alors, d'abord les bibliothèques, eh bien, là où il y a des lieux d'enseignement, par exemple les mosquées, par exemple les lieux privés, mais d'enseignement au-dessus du primaire. Plus tard, à la fin du XIe siècle, on va créer, c'est l'État maintenant qui intervient, va créer des madrasas, mais dans le sens d'université. On les appelle des madrasas nizamiya, parce que c'est le premier ministre du sultan de l'époque, donc le premier ministre s'appelait Nizam al-Mulk, qui va créer ce concept dans le cadre d'ailleurs des luttes entre chiites et sunnites, entre orthodoxes et non-orthodoxes. Et ces luttes étaient des luttes idéologiques. Et donc, on va créer des universités pour pouvoir contrôler l'enseignement, surtout de la théologie. Ce n'était pas contre les sciences, quoi que ce soit. Il n'y aura pas tellement de changements pour les sciences, pour l'astronomie, pour les mathématiques, parce que là, il y avait un consensus qu'il fallait les enseigner.
C'est quand même extraordinaire de considérer que ce débat est encore d'actualité aujourd'hui.
Hein. Sauf que il a changé de nature, mais ça c'est une autre sujet.
Oui. Alors on revient à ce que vous nous disiez, excusez-moi.
Alors donc les bibliothèques, on va les trouver à partir d'un certain niveau, donc dans les mosquées où il y a des enseignements de grands professeurs. D'ailleurs cette tradition a persisté parce que jusqu'à maintenant, dans les grandes mosquées qui se respectent, si on entre dans une mosquée, il y a une partie où il y a toujours des livres.
Oui,
pas seulement le Coran.
Oui, mais effectivement.
Toujours des livres. Et les gens, et c'est un lieu de savoir, libre, ouvert. Donc il y a une catégorie de bibliothèques qui vont être intégrées au lieu d'enseignement. Dans les grandes mosquées, dans les madrasas privées, surtout construites par les, financées par les chiites jusqu'au Xe siècle, enfin XIe, puis les grandes madrasas financées par les sunnites et par l'État à ce moment-là, et dont le concept va s'étendre de l'Asie centrale jusqu'en Espagne musulmane, jusqu'à l'Andalus, même au Maghreb. Quand on verra, quand on parlera de madrasa à partir du XIIe siècle, c'est ce concept-là. Et on en trouve donc en Ifriqiya, dans le Maghreb central, par exemple à Tlemcen, à Kérouan, à Marrakech, à Fès, bien sûr, à Grenade, même à Grenade.
Oui.
Et nous les connaissons, elles portent des noms, etc., etc. Et puis il y a les autres types de bibliothèques. Ce sont des bibliothèques privées.
Alors, qui sont les plus intéressantes, je suppose.
Alors, il y a des bibliothèques privées, chaque individu qui a les moyens et qui a atteint un niveau de culture, et vous savez que là, il faut bien voir qu'à partir du IXe siècle, des couches sociales vont accéder à la culture, au savoir, vont même consommer du savoir à tel point qu'il va y avoir toute une littérature, grâce au papier aussi, qui va être produite et diffusée.
Donc
pour
la poésie,
un public moyen.
La prose, des romans, des nouvelles, l'information.
Oh, je parle même pas de ça. Je parle de la littérature scientifique, des encyclopédies, des livres de vulgarisation que vous avez évoqués tout à l'heure. Et il y aura des gens qui écriront uniquement de la vulgarisation des sciences pour ceux qui ne sont pas spécialistes en sciences, mais qui voudraient avoir une certaine culture pour briller dans les salons.
Mm-hmm.
Pourquoi pas ? Pour s'informer aussi sur des domaines qu'ils ne connaissent pas. Et ces bibliothèques vont être financées par leurs propriétaires. Et nous avons des chartes, nous avons même des lettres de Habous, de Waqf, qui disent « Cette bibliothèque, je l'ai fondée pour qu'elle soit au service de tous ceux qui veulent étudier. » Ils ne précisent même pas pour les musulmans uniquement. Et parce que la société est cosmopolite, multiconfessionnelle. Et il dit « Celui qui vient, il a le droit d'utiliser le livre, mais il n'a pas le droit de le sortir de la bibliothèque. » Ou alors, il pose des conditions. Il a le droit de le prendre pendant le week-end et de le ramener et de laisser une caution. Enfin, des choses comme
ça.
Ou bien, parfois, il dit quelque chose de très très joli. Il dit, quiconque veut étudier les livres qui sont dans cette bibliothèque, nous mettons à sa disposition, avec le financement que nous laissons, de l'encre et du papier pour qu'il puisse vraiment accéder au savoir d'une manière beaucoup plus libre que le riche. Parce que grâce au papier, aux bibliothèques, eh bien, il n'y avait pas de droit d'auteur. Il y avait le copyright.
Alors, la parenthèse sur la bibliothèque d'Alexandrie.
Ah oui.
Ça, c'est important.
Donc, le mythe de la bibliothèque, de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est réellement, vraiment un très beau mythe, mais qui ne correspond pas à l'histoire. Surtout le mythe de l'incendie par les Arabes et les musulmans. On raconte que, à l'époque de Amr ibn al-As, le général qui a dirigé l'armée musulmane qui va conquérir l'Égypte, vers 642, arrive à Alexandrie, il trouve la grande bibliothèque, il trouve des livres, beaucoup de livres, évidemment écrits par des païens, puisque ce n'étaient même pas des chrétiens. Et alors il écrit une lettre à Omar ibn al-Khattab, qui était le calife de l'époque. Et donc il lui dit, qu'est-ce que je dois faire ? Omar lui aurait répondu au conditionnel, si ces livres contiennent la vérité, il n'y a pas de meilleure vérité que celle de Dieu, donc tu peux les brûler. Si ces livres ne contiennent pas de vérité, eh bien, c'est encore, il y a plus de raisons de les brûler immédiatement. Et à partir de cette lettre de Al-Khattab, bien Amr ibn al-As aurait ordonné de brûler la bibliothèque.
Mais c'est pas ça la réalité des faits.
C'est pas ça la réalité des faits pour une raison très simple, pour plusieurs raisons. Premier élément, c'est que s'il y avait eu l'incendie d'une fondation aussi importante, eh bien, les ennemis des musulmans auraient laissé des témoignages. Nous n'avons trouvé aucun témoignage, aucun, disant que ce sont les musulmans qui ont brûlé la grande bibliothèque d'Alexandrie.
Est-ce qu'on sait à quel moment elle a été brûlée, cette bibliothèque ?
Maintenant, nous le savons. C'est bien avant, dans le cadre des luttes entre les Romains et les pouvoirs qui étaient à Alexandrie.
Alors, on ferme la parenthèse de la bibliothèque d'Alexandrie et on va s'intéresser donc à une autre super bibliothèque qui est la fameuse Maison de la Sagesse à Bagdad. La grande ville de culture et d'histoire de l'époque.
Alors là, rapidement, hein, c'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que cette notion de Maison de la Sagesse, elle existait peut-être d'une manière réduite avant Al-Ma'moun, parce qu'on a attribué toujours la création de cette Maison de la Sagesse à Al-Ma'moun, le fameux calife. Mais en fait, ce serait Haroun al-Rachid, son père, qui aurait financé la première fondation. Mais le Ma'moun en a fait un lieu de rencontre, un lieu de production scientifique, peut-être une bibliothèque.
Ça amène là aussi à une grande question. Le savoir se démocratise, les mosquées, les madrasas servent d'école, on a une super bibliothèque, etc. Mais la médecine, qui était quand même une discipline à part entière avec des savoirs particuliers, où est-ce qu'on l'enseignait ? Est-ce que c'était dans sa médersa ou alors il y avait des universités ou des lieux appropriés pour enseigner la médecine avec tout ce qu'on en connaissait à l'époque ?
Les grands médecins avaient leur habitation et ils enseignaient leur médecine à leurs étudiants chez eux. Ça, c'est une première option. La deuxième option, dès la fin du 8e siècle, eh bien, on a commencé à construire des hôpitaux. Et le premier qui a construit un hôpital au sens plein du terme, l'hôpital avec des services, avec hommes, femmes, avec une pharmacie, c'est Haroun al-Rachid encore. Mais à partir du 9e siècle, avec le Ma'moun et les autres, dans chaque grande ville, il va y avoir un hôpital, parfois deux, parfois trois, comme au Caire, plus que ça. Haleb, qui est une ville qui n'est pas une capitale, va avoir un hôpital au 14e siècle. C'est-à-dire que même la tradition va se continuer plus tard. Grenade avait son hôpital, Marrakech avait son hôpital, Tunis avait son hôpital. Et donc, les grandes villes de l'Empire vont avoir leurs hôpitaux qui vont fonctionner à peu près de la même manière. C'est un lieu de soins, mais c'est un lieu aussi d'enseignement.
D'enseignement et de divulgation du savoir.
Voilà. Et d'ailleurs, ce sont les grands professeurs de médecine de la tradition musulmane qui ont, semble-t-il, inauguré cette façon d'enseigner. Il y avait les cours d'abord, ça on le faisait avant, mais en plus, il y avait l'enseignement pratique, c'est-à-dire que les étudiants suivaient le professeur et ils faisaient les fameuses visites le matin aux malades. Et ils enseignaient aux élèves, aux étudiants, directement sur le malade.
J'espère que je ne vais pas vous faire rire, ni faire rire les auditeurs, c'est un peu l'ancêtre de nos CHU, centre hospitalo-universitaire, pratiquement. C'est même formule.
Alors, on peut même considérer que ce sont eux les initiateurs de ce concept, absolument, c'est indiscutable.
Quelle étonnante modernité pour l'époque.
Oui. Nous avons le témoignage d'Al-Razi qui avait son calepin, parce qu'il a écrit des livres, mais il avait un calepin qu'il utilisait quotidiennement. Exactement comme les collègues professeurs d'université de médecine qui nous écoutent là aujourd'hui. Ils avaient leur calepin, ou alors leurs assistants avaient leur calepin, et ils notaient ce que lui il disait, ce que l'étudiant posait comme question, et la maladie, il donnait les explications, etc. Il posait des points d'interrogation quand il n'avait pas des réponses satisfaisantes pour lui, à tel point que quand il est mort, un membre de sa famille, qui avait conservé tous ses calepins, a eu l'idée de rassembler ses calepins et d'en faire un livre. Eh bien, ce livre a donné, je crois que c'est le Hawif et Tib, c'est-à-dire le grand recueil de médecine, où il y a des tas de citations de grands médecins. Parce que de tête, comme ça, quand il voyait une maladie, il disait « Ah, voilà ce qu'a dit un tel, etc. etc. » Parfois, il ajoutait à ses fiches des informations qu'il allait chercher dans les livres. Bref, c'était vraiment une médecine d'une certaine modernité, absolument.
Dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde ce savoir scientifique se développer, il fait des commandes en direction des scientifiques, comment ça se passe ?
Nous avons vu que l'État, à travers le calife, a financé quand même des traductions, et donc il a permis un démarrage intéressant du phénomène de traduction qui a été relayé heureusement par la société. Ensuite, il a financé la Maison de la Sagesse, quand même, qui va être copiée d'ailleurs, dans certaines régions, en particulier dans le Maghreb oriental, il va y avoir une maison de la sagesse chez les Arlabides, qui étaient les vassaux des Abbasides. Il va y avoir des semblants, des imitations de maisons de la sagesse un peu partout. Et puis, il y a des financements, à ce moment-là, des commandes de l'État. Des commandes de l'État qui sont tout à fait explicables, d'ailleurs. Première commande de l'État, c'est Al-Mansour, qui a régné de 754 à 775. Il voulait fonder une nouvelle capitale. Il ne voulait pas rester à Damas. Parce que lui, c'est le premier de la dynastie abbasside. Et vous savez qu'il y a eu des bagarres entre cousins, les Omeyyades et les Abbasides. Les Umayyades ont été battus, mais les Abbasides voulaient montrer la rupture. Et alors donc ils ont appelé les astrologues. Les astrologues étaient essentiellement des astronomes, vous savez. Donc ils avaient une science. Une vraie science qui est basée sur les mathématiques, plus tard sur la trigonométrie. Mais ce qu'ils ont fait pour prédire l'avenir, bon, ça c'est leur cuisine, si j'ose dire. D'accord ? On peut y croire ou ne pas y croire. En tout cas, c'était condamné par tous les théologiens, chrétiens, juifs, musulmans. C'était vraiment désapprouvé par les philosophes. Vous voyez, pour une fois, hein, vraiment.
Oui, il y avait un consensus.
Ibn Khaldoun condamne d'ailleurs l'astrologie de manière absolument véhémente. Mais malgré tout, eh bien, il y a eu transgression. Parce qu'il y avait des besoins, pour des raisons psychologiques, vous les appelez comme vous voulez, mais il y a eu des besoins. Et surtout, chez les califes eux-mêmes. Donc Al-Mansour va convoquer tous les astrologues, ils vont faire leurs calculs, et ils vont lui dire, tu dois bâtir ta nouvelle capitale, là, dans cet endroit. C'était un endroit totalement désert, entre deux fleuves, qui s'appellent le Tigre et l'Euphrate, un lieu dit, il n'y avait même pas de ville, un lieu dit, et il a construit sa capitale sur la foi des résultats des calculs des astrologues. Et ça s'appelait Bagdad, mais en fait, ça s'appelait pendant longtemps Madinat al-Salam, la ville de la paix. Ce n'est qu'après que c'est redevenu Bagdad, parce qu'il y a un lieu dit, vous savez, les noms sont têtus, hein, les noms des coins, des régions, etc., sont têtus. Mais elle s'est appelée Madinat al-Salam, la ville de la paix. Il y a un autre exemple, si vous voulez bien, pour l'astronomie. Al-Ma'mun a convoqué les astronomes, les meilleurs astronomes de son époque, et donc il leur a dit, est-ce que vous êtes capables de nous faire des cartes, une carte. Ils n'avaient pas encore les moyens de calculer avec précision latitude, longitude, etc. au début du 9e siècle, probablement. Alors, mais ils ont essayé quand même de faire une carte qui permette au pouvoir de savoir quels sont les territoires qu'ils gouvernent, quelles sont les populations, quelles sont évidemment leurs traditions, leurs coutumes, leurs religions, quel est le type d'économie de chacune des régions de l'Empire, quelles sont les routes, quels sont les ports, quelles sont les frontières, etc. Bref, c'est un besoin réel de l'État pour gérer son territoire. Et c'est comme ça qu'il y a eu la première carte, qu'on appelle la carte ma'mounienne, qui a été réalisée et qui contenait déjà des progrès par rapport à la vision qu'avaient les Grecs de la carte du monde.
Mieux élaborée, donc.
En tout cas, elle était plus précise, en particulier pour deux choses. Bien, la Méditerranée, dans la première carte d'El Ma'moun, elle était plus proche de la vérité qu'on constatait, parce que comme l'Empire musulman est un empire monde, et qu'ils voyageaient beaucoup, et ils connaissaient mieux leur territoire. C'est pas parce que les Grecs étaient moins intelligents, pas du tout. Hein. Et donc, ils ont constaté que les Grecs avaient allongé la Méditerranée avec 10 degrés de longitude supplémentaire. Donc, ils ont raccourci la Méditerranée pour la rendre un peu normale. Oh. Ils ont aussi ajouté quelque chose qui est très très important. Ce sont eux qui ont fait la première carte où l'océan Indien est un vrai océan. Alors qu'avant, c'était un lac. Avant, l'Afrique touchait l'Asie. Et donc, il y avait un lac fermé. Et l'Afrique était complètement collée à l'Asie. Eh bien, les musulmans ont libéré l'Afrique et ont libéré l'océan Indien. Au 9e siècle.
J'aime bien la façon dont vous racontez, c'est épatant. Alors, dernière question pour ce soir. Oula, l'heure tourne. Hein. À quelle époque ont démarré les activités scientifiques en arabe, donc au Maghreb et en Andalousie?
Eh bien, le Maghreb a dû attendre patiemment qu'il y ait les traductions. Il y a eu des petites traductions d'ouvrages de niveau très 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 faible que j'ai déjà évoqué en Andalous. Ce sont des ouvrages écrits en latin, il y avait un peu d'astrologie, un peu de mathématiques, un peu de géographie, mais c'était vraiment très 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 élémentaire par rapport au flux de savoir qui va se déverser à partir de Bagdad quand les traductions vont avoir lieu. Alors, lorsque les traductions ont eu lieu, eh bien les livres ont commencé à circuler, en arabe bien sûr, et ils vont arriver où ? Ben, à Kairouan d'abord. Parce que Kairouan était la capitale du savoir de tout l'Occident musulman, ce n'est pas Cordoue au départ, c'est Kairouan qui en fait nourrissait tout le monde, à la fois en théologie, en littérature arabe et en sciences au début. C'est pour ça que le 9e, 10e siècle, en fait le 9e, 10e siècle, c'est surtout le siècle de Kairouan.
Oui.
C'est intéressant.
Oui, oui, oui.
C'est aussi connu. Le siècle de Taherte. Taherte qui est une ville aujourd'hui en Algérie, enfin c'était un lieu dit avant, mais c'est une capitale d'une dynastie qui était une dynastie ibadite, donc qui n'était pas orthodoxe, alors que Kairouan est une capitale orthodoxe. Les ibadites sont les ancêtres des mozabites d'Algérie, de Rardaya, de Bni Yezgen, etc.
Taherte, c'est quelle ville aujourd'hui ?
Près de Tiaret. Mais c'était une capitale. Et nous savons qu'il y avait production scientifique. Absolument, nous avons des informations. Et nous sommes donc au 9e siècle, quand même. Donc Kairouan, Taherte, rapidement Cordoue, vont commencer à produire de la science. En fait, ils vont copier un peu ce que fait l'Orient, avant de devenir originaux à partir du 10e siècle.
Alors, on est déjà au Xe siècle, ou presque. Hein. On chemine lentement, mais sûrement, avec toute la passion que vous savez mettre dans cette façon de raconter. Hein. Non seulement j'apprends, mais en plus, j'y prends énormément de plaisir. Plaisir certainement partagé par les auditeurs. Donc, on vous remercie pour ce soir, hein, parce que la semaine prochaine, on va aborder, le plus grand des domaines. Quand on fait allusion aux sciences arabes, évidemment, on pense immédiatement aux mathématiques qu'on avait qualifiées de sciences des exercices. C'est bien ça.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, la semaine prochaine, moi qui ai toujours été une nulle en mathématiques, je vais pouvoir sourire quelque part, savoir ce que je n'ai pas compris.
Mais je vais en parler simplement.
Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour les mathématiques. Et puis, pour les auditeurs, vous avez toute la semaine pour réfléchir à tout ce que vous venez d'écouter. Bonne semaine et à la semaine prochaine, 18h15.
Raconté par le professeur Ahmed Jabbar. Présentation Dalila Smaril. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fouhar.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.